grand titre de ce jeudi 31 août. Un autre élu australien se retrouve dans l'eau chaude en raison des lois liées à la double nationalité. Impopulaire, le président français Emmanuel Macron se défend dans une interview au magazine Le Point. Et après le Texas, la tempête tropicale Harvey frappe la Louisiane. Et oui, un autre sénateur se retrouve donc dans l'eau chaude en Australie pour une question liée à la double nationalité. Il s'agit cette fois de Darren Hinch qui vient de révéler ses liens avec les États-Unis. Le sénateur n'est pas citoyen américain, mais il a travaillé aux États-Unis comme journaliste dans les années 60 et 70 et a toujours une carte de sécurité sociale. La Constitution australienne stipule que les élus ne peuvent pas être citoyens d'autres pays ou de bénéficier des mêmes privilèges. Le sénateur Hinch affirme avoir écrit au ministère américain de la Sécurité sociale lorsqu'il a été élu pour lui demander de ne pas lui payer sa pension. Il a aussi dit à Frank Kelly de Radio Nationale que sa carte ne lui donnait aucun privilège aux États-Unis.
Why Section 44 comes in, as you mentioned, is that it says about rights and privileges of a foreign power.
Mm-hmm.
Now, I don't believe a pension is a privilege, wherever you live. I can't vote in the United States. I can't do anything in the United States. I couldn't even work there without the right papers. So
just on that, because that could be a privilege. You say you don't have a green card, but you have a social security number. That doesn't entitle you to work there?
No, it doesn't.
Le sénateur Darren Hinch. Un prêtre catholique pédophile emprisonné depuis 1994 vient de voir sa sentence étirée de 11 ans pour avoir abusé 12 autres enfants du Victoria. George Ridsell, qui a maintenant 83 ans, a abusé au moins 65 enfants entre les années 60 et 80. L'ex-premier ministre John Howard est inquiet du danger que posent les ambitions nucléaires de la Corée du Nord pour l'Australie. Il a dit lors d'un gala à Sydney que les États-Unis et la Chine devaient s'unir pour résoudre le problème.
Certainly against the backdrop of the cloud called North Korea hanging over us at the moment, there is no bilateral relationship in the world that is more important than that between the United States and the People's Republic of China.
L'ex-premier ministre australien John Howard. La première ministre britannique Theresa May est du même avis, disant que la Chine doit faire plus pour stopper la Corée du Nord. Elle a profité d'une visite au Japon pour réitérer son support au Conseil de sécurité des Nations Unies.
These are illegal tests, and it is outrageous, it is provocation, and they should be stopping them. We will be working, there's been a discussion in the United Nations Security Council, and I'm pleased that there was a united condemnation of North Korea from the United Nations Security Council, but we want to work with international partners to see what further pressure can be brought on North Korea, and of course particularly look at what China can do to bring pressure on North Korea.
La première ministre britannique, Theresa May. Au moins 20 personnes sont mortes aux États-Unis en raison du passage de la tempête Harvey. 13 000 personnes ont ainsi été secourues. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a dit que les inondations allaient demeurer encore plusieurs jours.
The worst is not yet over for Southeast Texas as far as the rain is concerned. There will be ongoing challenges both during the time that rain continues to fall as well as for approximately 4 days to a week to come. Let me mention specifically flooding conditions that will continue to be a challenge for people in the area.
Après le Texas, la Louisiane aussi est touchée. On écoute Véronique Guémard de RFI.
Harvey s'est transformé en tempête tropicale et a touché le sud-ouest de la Louisiane à l'aube ce mercredi. La tempête devrait perdre de sa force à mesure qu'elle remonte vers le nord-est, selon le Centre national des ouragans. Mais la situation reste très dangereuse, prévient le service météorologique, car des pluies torrentielles s'abattent sur différentes localités qui ont été évacuées et des rivières débordent. Les habitants espèrent que des sacs de sable qu'ils ont placés préserveront leurs maisons. Des tornades pourraient aussi se développer dans le nord-est de la Louisiane et le Mississippi, et même plus à l'est dans l'Alabama, prévient le Centre de prévision des ouragans qui demande aux habitants de rester vigilants. La Nouvelle-Orléans se préparait à une éventuelle montée des eaux en faisant fonctionner ses pompes de drainage en mauvais état, alors que les habitants se remémoraient douloureusement mardi le passage de Katrina il y a tout juste 12 ans. Le maire les avait priés de rester chez eux. Ce mercredi, alors que le soleil perçait les nuages, les écoles ont rouvert leurs portes. En revanche, elles sont restées fermées un peu plus au nord, à Bâton Rouge.
C'était Véronique Guémard. En France, la cote de popularité du président est en chute libre. Emmanuel Macron a donc décidé d'accorder une longue interview au magazine Le Point où il se défend. Valérie Gasse nous en parle.
Reprendre la main et défendre son action, c'est sans conteste l'objectif d'Emmanuel Macron, dont la communication a été basée sur l'image pendant des mois. Cette interview au Point, annoncée, lui permet de remettre en perspective son action dans un format adapté à ce que ses conseillers ont décrit comme sa pensée complexe. Un entretien de 20 pages où il peut expliquer sur la longueur sa politique et d'abord en refusant d'être jugé au bout de ses fameux 100 jours. Il demande du temps pour réformer en profondeur et surtout, il réaffirme qu'il mènera la politique pour laquelle il a été élu. Il n'y a pas de surprise, explique Emmanuel Macron. Le jour même où Édouard Philippe va enfin dévoiler le contenu des ordonnances sur la loi travail, il justifie cette réforme et celles qui vont suivre. Il explique que ce ne sont pas des buts, mais des moyens pour libérer les énergies et lutter contre le chômage de masse. Objectif, redonner du sens à son action. Emmanuel Macron assume et tacle au passage François Hollande, qui l'a mis en garde contre le fait de demander des sacrifices inutiles aux Français, mais qui, selon lui, a été dans l'impossibilité de défendre son bilan. Dans cette interview, Emmanuel Macron ne tente pas de rassurer, mais de convaincre à nouveau et surtout de montrer qu'il garde son cap malgré les difficultés.
Valérie Gasse pour RFI. Cette interview d'Emmanuel Macron, elle paraît dans Le Point aujourd'hui, jour où le gouvernement va présenter ses ordonnances sur le Code du travail, projet phare du président. Un reportage de Julien Chavanne.
Après plus d'une centaine de réunions entre les ministres et les partenaires sociaux, le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner, l'assure et le répète, les ordonnances sont le fruit d'une vraie concertation. Autrement dit, l'exécutif n'a rien à se reprocher, le dialogue social a été respecté. Autre argument mis en avant par l'Élysée pour montrer que sa méthode est la bonne, le soutien de l'Allemagne. Invité au Conseil des ministres, le chef de la diplomatie allemande, Sigmar Gabriel, a donné une très bonne note à Emmanuel Macron.
Je suis très impressionné par ce que je viens d'entendre pendant le Conseil des ministres concernant le programme de réforme qui a été préparé au cours de longues discussions et d'un long dialogue social. Ce programme, j'en suis convaincu, va vous aider à devenir plus fort dans le domaine économique et social.
Un avis loin d'être partagé par la CGT qui appelle à manifester le 12 septembre. La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon organise, elle, une autre mobilisation le 23. En cette rentrée plombée par les mauvais sondages, Emmanuel Macron soigne sa communication pour affronter son premier bras de fer social.
Julien Chavanne de RFI. Le secrétaire général des Nations Unies demande la fin du blocus de la bande de Gaza. Antonio Guterres est en visite dans la région pour la première fois depuis qu'il est entré en poste plus tôt cette année. Il a rencontré les leaders israéliens et palestiniens pour les encourager à recommencer les pourparlers. Il a dit que la fin du blocus est nécessaire.
It is important, wa muhim jiddan, to open the closures in line with the resolution 1680 of the Security Council.
Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Au Cameroun, le gouvernement a annoncé l'arrêt des poursuites judiciaires contre des leaders de la minorité anglophone en conflit avec le pouvoir de Yaoundé. Sur place, Policar Pessamba.
La nouvelle a été accueillie avec un certain soulagement au temps à Bamenda dans le nord-ouest, Kabuya dans le sud-ouest. Dans ces deux villes qui polarisent l'humeur de la contestation anglophone vis-à-vis du pouvoir central de Yaoundé, l'on avait fait de la libération de ses leaders un préalable dans la perspective de la sortie des crises. Le communiqué du secrétaire général de la présidence de la République, lu hier sur les ondes de la radio d'État, le dit d'ailleurs de manière implicite. Cette décision s'inscrit, annonce-t-il, en droite ligne des mesures déjà prises dans la recherche d'une résolution pacifique à cette crise qui court depuis bientôt un an. Paul Biya a ainsi satisfait une demande pressante d'une large partie de l'opinion publique anglophone et même nationale qui demandait un acte fort allant dans le sens de l'apaisement. Ces dernières semaines, la crise avait pris un tour de plus en plus radical, avec notamment la multiplication des actes de profanation des symboles de la République. Des drapeaux ont été brûlés et des tentatives de saccage des ambassades du Cameroun dans certains pays anglo-saxons ont été enregistrées. En cette veille de rentrée scolaire, la libération des leaders et activistes anglophones était espérée pour donner une chance à la reprise des cours dans cette partie du pays.
Polycarpe Pessomba de RFI. Et pour terminer, une bonne nouvelle pour les voyageurs qui volent avec Qantas. La compagnie aérienne australienne va mettre à jour ses avions pour le trajet entre Sydney et Londres. Ils passeront du A330 au Airbus 380 et le vol fera dorénavant escale à Singapour plutôt qu'à Dubaï. Jetons un coup d'œil à la météo avant de passer au sport. C'est le dernier jour de l'hiver et les températures demeurent froides. À Perth, aujourd'hui, on a un maximum de 17 degrés. Adélaïde, 20. Melbourne, 16. Hobart, 12. Canberra, 14. Wollongong, 16. Sydney et Newcastle, 17 degrés. Brisbane, 23. Cairns, 29. Et à Darwin, 33 degrés. On rappelle des grands titres de ce jeudi 31 août. Un autre élu australien se retrouve dans l'eau chaude en raison des lois liées à la double nationalité. Impopulaire, le président français Emmanuel Macron se défend dans une interview au magazine Le Point. Et après le Texas, la tempête tropicale Harvey frappe la Louisiane.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench